Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, Luc-Jean Reynaud.
Et à la technique, Éric Boisset. Il est de ces temps, dit Jean Salem, où la liberté a déserté jusqu'aux rêves des hommes, où seul un luxe dispendieux distrait les riches de leur ennui et dissimule le dénuement du plus grand nombre, où l'artiste surcharge son œuvre, travaille à sa grâce plus qu'à sa beauté. Eh, c'est le temps d'Épicure. Car la dislocation au IVe siècle des conquêtes d'Alexandre le Grand, les lambeaux d'un empire immense que se disputent ses anciens lieutenants, le cadavre de l'empereur lui-même outragé, tout cela renseigne sur l'impasse à laquelle nous conduisent des désirs illimités et sur la nécessité, quand la cité cesse d'être l'État, de s'affranchir des mouches de la place publique pour, entre bons amis, apprendre à cultiver son jardin.
La vie humaine, spectacle répugnant, gisait sur la terre, écrasée sous le poids de la religion, dont la tête surgit des régions célestes, menaçait les mortels de son regard hideux. Quand pour la première fois, un homme, un grec, osa la regarder en face, l'affronter enfin.
Et rien ne l'arrêta, ni renommée des dieux, ni foudre, ni menace, tombant du ciel grondeur. Il n'en eut au contraire qu'une plus vive ardeur et l'esprit plus vaillant, au point que, le premier, en face des verrous fermés à double tour aux huis de la nature, il fut pris du désir de les faire sauter.
Oui, Raphaël, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà fait une émission sur Lucrèce.
Oui, on en a fait deux même.
On en a fait deux, voilà. Donc c'était juste histoire de citer quelques vers de son éloge à Épicure, parce que justement, aujourd'hui, on parle de la lettre à Ménécée d'Épicure et plus de De Natura Rerum de Lucrèce.
Alors il faut rappeler quand même pour nos auditeurs que Lucrèce, dans le De Natura Rerum, propose un résumé sublime de la pensée d'Épicure, et qu'au fond, c'est, outre d'autres références fameuses, l'essentiel de ce que nous savons d'Épicure se trouve dans l'œuvre de Lucrèce, puisqu'on a quasiment perdu la quasi-totalité. Hein. On a perdu la quasi-totalité du corpus épicurien, à quelques exceptions près, dont cette très fameuse et très complète Epistolae pros Menoikeia, lettre à Ménécée.
Voilà, dont je vais lire le tout début.
À vous, Paola.
Épicure à Ménécée, salut. Qu'on ne remette pas la philosophie à plus tard parce qu'on est jeune et qu'on ne se lasse pas de philosopher parce qu'on se trouve être vieux. Il n'est en effet pour personne ni trop tôt ni trop tard lorsqu'il s'agit d'assurer la santé de l'âme. Or, celui qui dit que le moment de philosopher n'est pas encore venu, ou que ce moment est passé, est semblable à celui qui dit, s'agissant du bonheur, que le moment n'est pas encore venu, ou qu'il est passé. Par conséquent, doit philosopher aussi bien le jeune que le vieillard, celui-ci afin qu'en vieillissant il reste jeune sous l'effet des biens, par la gratitude qu'il éprouve à l'égard des événements passés, et celui-là afin que tout jeune qu'il soit, il soit aussi un ancien par son absence de crainte devant ce qui va arriver.
Ça, c'est le début de la lettre à Ménécée, Paola.
Voilà, je ne sais pas si on peut commencer justement par lui.
On a commencé l'émission par un éloge d'Épicure, maintenant on commence Épicure voilà. Par un éloge de la philosophie. Allez-y.
Ce que j'allais dire, c'est savoir si on peut commencer par lui opposer, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, parce qu'on deux philosophes connus que sont Platon et Rousseau. Et
pourquoi Platon et Rousseau?
Mais parce que Platon, dans une émission dont on avait parlé du Gorgias, Calliclès, un des interlocuteurs de Socrate, dit non, mais Socrate, j'ai pas le texte, peut-être qu'on peut le retrouver.
La philosophie, Socrate, n'est sans doute pas sans charme si l'on s'y livre avec modération dans la jeunesse. Mais si l'on s'y attarde au-delà d'une juste mesure, c'est une calamité. Quelque bien doué que soit un homme, s'il continue à philosopher dans son âge mûr, il est impossible qu'il ne se rende pas étranger à toutes les choses qu'il faut connaître pour devenir un homme bien élevé et considéré. Le philosophe ignore les lois qui régissent la cité, il ignore la manière dont il faut parler aux autres dans les affaires privées ou publiques. Il ne sait rien des plaisirs ni des passions, et pour tout dire d'un mot, sa connaissance de l'homme est nulle. Ainsi, quand il se trouve mêlé à quelque affaire publique ou privée, il fait rire de lui, etc. etc. C'est l'argument de Calliclès contre la philosophie, qui est un argument qui est au fond à la fois brandi par ceux qui aujourd'hui disent « la philo c'est du pipeau », la philo, ça sert à rien. La philo, c'est la tête dans les étoiles. Le philosophe, c'est celui qui... Vous, le philosophe, vous n'avez pas les pieds sur terre. C'est ce genre de conneries. Mais c'est également l'argument qui est implicitement repris par ceux qui disent « mais pas du tout, la philosophie c'est facile et c'est accessible », comme s'il fallait le démontrer. Comme si au terme d'une contorsion, comme si en se mettant le pied derrière la tête, la philosophie allait abjurer sa nature absconse et se rendre accessible.
Oui, il y avait un débat pour que la philosophie commence même en maternelle. Pour montrer à quel point c'était simple.
Alors il y a une différence entre faire commencer la philosophie en maternelle et la faire commencer en seconde. Mais ouais. Bon, c'est un autre débat. Le fait est que Épicure, ici, qui est presque le contemporain, presque pas tout à fait, répond en un sens au propos du Gorgias, c'est-à-dire au propos de Caliclès dans le Gorgias, à l'idée au fond que la philosophie, c'est sympa quand on est petit, mais quand on vieillit et qu'on passe aux choses sérieuses, ben, on a mieux à faire qu'à se prendre la tête sur des concepts oiseux, éthérés, lointains, etc. etc. Et c'est à cela que Épicure entend répondre.
Et inversement, Rousseau, lui, dans les rêveries, enfin, je vous lis juste un tout petit passage, ce qu'il dit, c'est « Est-il temps, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ?» Donc on a les deux oppositions à Épicure, celle de Caliclès et celle de Rousseau. Alors
non,
comment...
non, puisque Rousseau et Caliclès sont assez d'accord. Caliclès dit quoi ? Caliclès dit « la philo, c'est sympa quand on est petit, quand on est vieux ou quand on est plus âgé, on a plus intéressant à faire qu'à se prendre le chou avec ce genre d'ânerie oiseuse et éthérée. Bon. » Rousseau dit « est-il temps, après avoir vécu, d'apprendre à vivre ?» Il dit, l'expérience instruit toujours, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il temps, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ? Que me servent des lumières si tard et si douloureusement acquises sur ma destinée et sur les passions d'autrui dont elle est l'œuvre ? Je n'ai appris à mieux connaître les hommes que pour mieux sentir la misère où ils m'ont plongé. » Donc pour Rousseau, il écrit contre Solon, il écrit contre l'idée qu'on apprend toujours quand on vieillit. À quoi ça nous fait une belle jambe, si vous voulez. Et l'argument de Rousseau est un argument utilitariste, comme très souvent chez Rousseau. La question éducative chez Rousseau est prise dans le réseau de l'utilité. Les enfants doivent apprendre ce qui est utile. C'est la raison pour laquelle Rousseau s'oppose en général à l'enseignement par les livres. Parce que ça ne sert à rien. Rousseau est un utilitaire, un utilitariste, un des premiers en fait dans sa question éducative et en particulier dans son rapport à la philosophie. À quoi ça sert de faire de la philosophie quand on est vieux ? À quoi ça sert ? Oui, mais à quoi ça sert de se demander à quoi servent les choses ? Et ça, c'est une question pour le coup que Rousseau n'aborde pas.
Mais pour Épicure aussi, la question est à quoi ça sert ?
Oui.
Puisque c'est utile aussi, puisqu'il dit qu'il le faut pour acquérir le bonheur.
Tout à fait. C'est-à-dire que Épicure aurait pu répondre à Rousseau en déconstruisant l'argument de l'utilité même, en disant c'est pas parce que c'est utile qu'il faut le faire ou inutile qu'il faut pas le faire. C'était une réponse possible. Et pourquoi pas ? Mais la réponse qui est la sienne ici, c'est dire qu'il est trop tôt ou trop tard pour faire de la philosophie, cela revient à dire que l'heure d'être heureux n'est pas venue encore ou qu'elle a déjà passé. Car pour Lucrèce, pour Épicure, c'est un lapsus qu'on risque vous et moi de commettre un peu dans cette émission, pour Épicure, philosophie et bonheur sont rigoureusement synonymes. Non pas philosophie et bonheur d'ailleurs, philosophie, activité philosophique et pratique du bonheur. Ce sont là des syntagmes synonymes. Ainsi, dit-il, et le jeune homme et l'homme âgé doivent philosopher, celui-ci, afin de rajeunir au contact du bien en rappelant à lui les jours passés, ça c'est pour le vieux, celui-là, exempt de crainte devant l'avenir malgré sa jeunesse, afin d'être serein comme un vieillard. Donc, pour Épicure, on philosophe tout le temps. Il n'y a pas de mauvais moment pour philosopher. Ça n'est jamais le mauvais moment. Il ne faut pas s'abstenir de faire de la philosophie quand on est jeune parce qu'on est trop bête pour en faire, ni en faire quand on est vieux parce qu'on est trop vieux pour comprendre et qu'on préférerait ne pas comprendre qu'il nous reste finalement peu de temps à vivre et aucun temps à jouir. Donc, il vaut mieux, si vous voulez, du point de vue d'Épicure, c'est toujours le moment de philosopher, car la pratique de la philosophie est dans son esprit associée au bonheur. Au bonheur entendu comme une activité plus encore que comme un état et également comme une façon pour lui de donner à la vieillesse l'énergie de la jeunesse. Si vous voulez, la philosophie, c'est le Viagra intellectuel du vieillard et c'est en même temps le calmant que la jeunesse peut avantageusement ingérer pour ne pas être trop bête, ce qui est difficile, voyez.
Donc d'une certaine manière, il y a là chez Épicure une dualité entre le corps et l'esprit.
On peut considérer qu'il y a, si vous voulez, il y a l'idée que la pratique de la philosophie doit rendre heureux. C'est-à-dire qu'une philosophie qui ne rend pas heureux, au fond, d'un point de vue rigoureusement épicurien, ne mérite pas une heure de peine. Il faut ici dissiper un malentendu classique, traditionnel, sur lequel on reviendra, c'est de tenir l'épicurien pour un jouisseur. Je me souviens de Michel Onfray, comme ça, en conférence, parlant de l'épicurien gros cigare et petite pépée. Et il expliquait à tout le monde que c'était pas ça, Épicure. Et c'était vraiment, alors là, pour le coup, Onfray faisait œuvre salutaire en expliquant que l'épicurien, c'était pas le jouisseur, que le machiavélien, c'était pas le méchant. Donc il faut d'abord dissiper ce malentendu-là. Mais en même temps, il est vrai que la philosophie doit rendre heureux parce que la philosophie, c'est le bonheur. Parce que la pratique de la philosophie, c'est le bonheur. Et que si une philosophie qui ne rend pas heureux ne mérite pas une heure de peine, c'est que la philosophie est une activité qui, par ses discours et ses raisonnements, a pour effet de nous rendre heureux, de nous procurer la vie heureuse, de faire en sorte que tout homme sorte de la vie comme s'il venait juste de naître, dit-il. C'est très intéressant, il y a quelque chose derrière. Il dit deux choses. Il dit d'une part, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, bon, au fond, c'est ça. Hein. Il voudrait que jeunesse sache et que vieillesse puisse. Et deuxièmement, la philosophie, la pratique de la philosophie est une voie royale vers le bonheur. D'ailleurs, il dit, hein, « Ceux qui enjoignent au jeune homme de vivre bien et au vieillard de bien mourir disent une niaiserie, car le vieillard aussi goûte la douceur de vivre, et puis vivre et bien mourir, cela ne fait qu'un. »
Je veux dire une chose importante. Vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marché, on s'en fout de Georges Marché, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons.
J'ai toujours eu horreur, Raphaël, des gens qui parlent au nom de la jeunesse.
Ah oui, le jeunisme. Mais il y a pire que le jeunisme. On vient d'entendre Daniel Balavoine invectivant le... Je crois que c'est le candidat François Mitterrand. Je n'ai pas la date de l'émission exacte. On est soit en 80, soit en 82. Mais il me semble que Mitterrand n'est pas élu à ce moment-là. Donc Daniel Balavoine, en costume de cuir, Daniel Balavoine, en représentant du jeune. Alors, en fait, il y a plus antipathique, à mon sens, que le vieillard qui dit... Vous savez, façon jeune, nous voulons mieux vous connaître. Nous vous aimons bien, jeune, vous êtes l'avenir. François Hollande faisait campagne pour les jeunes. Édouard Balladur avait lancé un questionnaire pour les jeunes. Donc il y avait ce... Bon, c'est une stratégie politique rudimentaire qui consiste à draguer ce corps électoral pas plus particulièrement malléable, à la fois parce qu'il est moins engoncé dans ses usages, dans ses rites, dans ses habitudes et dans ses certitudes, mais également aussi parce qu'il est quand même beaucoup moins cultivé. Donc ce ventre mou qu'on appelle la jeunesse a souvent fait l'objet de la courtisanerie des politiques. C'est-à-dire que les politiques ont été les courtisans de la jeunesse pendant très longtemps. Mais il y a pire que ça. Il y a le jeunisme des jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire il y a ces jeunes gens, en l'occurrence Daniel Balavoine, paix à son âme, ces jeunes gens qui valorisent le fait hautement provisoire d'être jeune. Je veux dire, rien n'est plus provisoire que la jeunesse. Alors, c'est très intéressant. On n'arrête pas de se réjouir des manifestations de jeunes. En 68, en 86 contre Devaquet, en 94 contre Balladur, en 2006 contre Villepin. On n'arrête pas de se dire, c'est formidable, ces lycéens qui entrent en politique, qui manifestent, etc. Bon, et on s'en réjouit. Mais on oublie, à cet égard, que... Le jeunisme des jeunes, la revendication de la jeunesse, genre « Balladur, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue », ce genre de phrase qui ne veut rien dire, fait de la jeunesse un mouvement communautaire qui valorise comme tel le fait vraiment provisoire de n'avoir pas encore atteint l'âge adulte, si vous voulez. Et c'est le côté « nous les jeunes ». Vous savez, il y a comme ça des jeunes gens qui disent « nous les jeunes ». Ça me fait penser à la pub, vous savez, pour les rasoirs, pour nous les hommes. C'est à peu près aussi ridicule. Nous les jeunes, comme si le fait d'être jeune était un bien en soi. Alors, à cela s'ajoute le fait que les manifs de jeunes aujourd'hui sont des manifs conservatrices. C'est-à-dire, ce sont des manifs en général réactionnaires. C'est-à-dire que c'est plutôt pour la défense d'un ordre établi que pour telle ou telle inflexion, infléchissement, amélioration ou modification des choses. C'est en général, ce sont des manifs conservatrices, non pas réactionnaires, mais conservatrices, contrairement à mai 68, par exemple. Mais, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec Daniel Balavoine, c'est qu'il invective... Alors, Luc-Jean Reynaud me donne la date à l'instant, ça se passe le 19 mars 80, donc Mitterrand n'est que candidat. Il invective François Mitterrand au nom du fait d'être jeune et en disant, voyez, il n'y a pas de ministre qui nous ressemble, il n'y a pas de ministre qui s'habille comme des jeunes. Au fond, ce que Balavoine demande ici, c'est qu'on lui mente, c'est qu'on le flatte, c'est qu'on le courtise, c'est qu'on se déguise en lui-même. Et c'est intéressant de voir comment on est ici en pleine adolescence, non pas au sens où l'adolescence serait un âge de la vie, mais au sens où l'adolescent serait une disposition de l'esprit. L'adolescence, ce n'est pas simplement le fait d'avoir entre 17 et 30 ans, si vous voulez, ou 17 et 25 ans. L'adolescence, c'est une disposition de l'âme qui consiste à se tenir à ce point pour le centre du monde qu'au fond, on tient pour égoïste celui qui ne pense pas à soi, ou qui ne pense pas à moi, en l'occurrence. L'adolescence, c'est cette forme très particulière d'égoïsme qui consiste à se tenir soi-même pour détenteur d'une vérité, ou pour, oui, détenteur d'une vérité qu'on viendrait objecter à un monde qui, a priori, aurait peur de l'entendre. Et ça, ce sentiment de prendre d'assaut la Bastille en enfonçant des portes ouvertes, si vous voulez, n'est pas le propre de la jeunesse. Donc il faut ici distinguer l'adolescence et la jeunesse. En l'occurrence, Balavoine, il est à la fois jeune et adolescent, ici. Et par conséquent, il réclame aux politiques, tout simplement, il demande aux politiques d'être démagogique, c'est-à-dire de le flatter, de lui ressembler, de s'habiller comme lui. Et dans ces cas-là, quand on lit Épicure et qu'on demande, et qu'Épicure, au fond, demande aux jeunes de faire de la philosophie dans la mesure où ça leur donne la sagesse des vieillards, c'est véritablement une invitation pour quelqu'un qui est encore jeune, qui est à peine tombé du nid. C'est l'invitation la plus claire qu'on puisse faire à un individu de penser contre lui-même. Comme pour un vieillard, de s'intéresser à la jouvence de l'esprit, en quoi consiste l'exercice de la philosophie. Savoir en partenariat avec Philosophie Magazine vous propose aujourd'hui une émission sur Épicure.
Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien
Philosophie Magazine, dont le dossier sur Épicure avec évidemment Marcel Conche est comme à chaque fois un modèle du genre.
L'idole des jeunes, alors c'est ça dont on parle aujourd'hui.
Oui, Épicure, l'idole des jeunes. Non, écoutez, il y a certains artistes comme ça, on a envie de leur dire chantez, chantez, mettez-vous. Mais en l'occurrence, quelle chanson formidable. Mais Épicure, allez, Épicure en idole
mais
des jeunes.
Mais une question qu'on peut se poser par rapport à la jeunesse, c'est quel est le rapport, puisqu'il est pour une philosophie après tôt, quel est son rapport à l'éducation?
Oui, j'avais entendu une philosophie apresto, je comprenais plus ce que vous voulez dire. Une philosophie apprise tôt, une philosophie pratiquée tôt. Ben, c'est ça qui est extraordinaire avec cet outil de pondération que constitue la philosophie. Si vous l'apprenez tôt, vous injectez dans votre juvénilité la sagesse, vous mettez un peu de Sénat dans votre assemblée, si vous voulez. Vous injectez un peu de pondération, un peu de calme. Et si vous faites de la philosophie quand vous êtes vieux, vous rajoutez de l'énergie, vous vous redonnez l'énergie que vous avez déjà perdue. Au fond, la philosophie est un équaliseur, en l'occurrence, qui vous permet tout simplement de conserver un bon rythme dans la grande métriopathie épicurienne, le métri épicurienne, c'est-à-dire l'art, au fond, de conserver son plaisir ou son désir à bonne distance, de soigner son plaisir, de soigner son existence, de prendre soin de son existence. En quoi consiste principalement l'épicurisme, ce qui explique que l'épicurisme ne soit pas l'espèce de jubilation grossière à laquelle on le réduit ordinairement. Dans cette grande logique épicurienne, la philosophie est un outil de pondération. Ce n'est pas de l'exaltation, c'est de la pondération. La philosophie apporte le calme, la sérénité. Et alors, vous avez parlé de l'éducation. Les épicuriens sont un groupe. J'ai parlé de bons amis au début. Oui, de bons amis, d'amis fidèles, d'amis qui se trouvent entre eux, qui, a priori, ne prétendent à aucune vertu politique et qui ressemblent de très près, d'ailleurs, aux dieux qu'ils imaginent. On en parlera, des dieux d'Épicure. Les épicuriens sont dans cette position un tout petit peu de retrait par rapport à la cité, et Épicure tient un discours comparable sur la question éducative. Il emploie une expression, alors je cite de mémoire, c'est quelque chose comme « il faut fuir à voile déployée devant toute paideia », c'est-à-dire en l'occurrence devant toute éducation institutionnelle, devant toute institutionnalisation du processus de l'éducation. Au fond, l'épicurisme, au fond, l'apprentissage est une affaire trop sérieuse pour être confiée à l'institution qui s'en charge. Mieux vaut avoir un maître, un précepteur, un individu, quelqu'un qui a confiance en vous, qu'une institution, qu'une classe, en définitive. Donc il y a, sous l'épicurisme, une critique de la structure éducative ou de l'éducation comme structure. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, la deuxième nuance qui n'est pas sans rapport avec la question que vous posez, Paola, c'est qu'il faut avoir en matière épicurienne le sens des nuances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire toute philosophie à l'idée qu'on s'en fait, en gros. Et pour le dire très simplement, l'épicurisme, ça n'est pas le carpe diem. On dit souvent, oui, c'est un épicurien, alors carpe diem. Seize the day. Vous avez vu le cercle des poètes disparus?
Oui, oui.
Le professeur Keating, qui n'arrête pas d'inviter ses élèves à profiter du jour, etc. etc. Mais c'est Horace qu'il cite, c'est pas Épicure. Et le carpe diem, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la jubilation anacréontique, un rappel du poète Anacréon, cette hâte de jouir, ça n'est pas le propos d'Épicure, dans la mesure où, pour Épicure, se dépêcher de cueillir tout de suite les roses de la vie, au motif qu'elles vont se faner, c'est déjà baisser pavillon devant la fanaison prochaine. C'est déjà s'incliner soi-même devant le fait que les roses vont un jour se faner. C'est jouir de l'existence parce que ça ne dure pas, c'est laisser la place à la mort. C'est déjà céder à la mort tout le terrain. Parce que l'hédonisme épicurien n'a rien d'une jouissance anxieuse qui consiste, c'est une éducation du désir, plus que du plaisir d'ailleurs, c'est une éducation du désir qui n'a rien de la jouissance anxieuse qui consiste à jouir des choses avant qu'elles disparaissent. Parce que ça, c'est pas sage. C'est pas sage. Et d'ailleurs, on parle des jeunes, on parle des vieux depuis tout à l'heure. Des personnes âgées, comme on dit, et des personnes en formation, comme on dirait, pour employer les euphémismes convenables du temps. Mais personne n'est plus jeune qu'un homme qui, ayant dépassé la force de l'âge, se gave justement de Viagra ou de Prozac ou de Viazac pour maintenir en lui l'illusion d'une jeunesse perdue. Et personne n'est plus vieux que le jeune qui prend la parole, brandit une affiche en disant « nous les jeunes ». Donc, encore une fois, la jeunesse ou la vieillesse ne sont pas un âge, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Et les deux âges, jeunesse et vieillesse, ont en commun une commune adolescence qui est tout simplement de se prendre pour le centre du monde. La distinction, la nuance à faire de la philosophie, d'avoir le sens des nuances, dit Nietzsche. La distinction épicurienne, enfin à faire entre l'épicurisme et le carpe diem de Horace, est très importante, par exemple, à cet égard. Vous avez chez Épicure toute une critique du divertissement, Paola. Alors qu'on pourrait considérer qu'être épicurien, c'est se livrer corps et âme à la jouissance. Eh bien non, le bonheur pour Épicure passe par le fait de ne pas s'oublier soi-même dans une pratique du divertissement. Mais il y a une façon sage de jouir de l'existence. En réalité, c'est même d'ailleurs, à ses yeux, la seule façon de jouir véritablement de la vie.
Mais en fait, du coup, le stoïcisme et l'épicurisme ne sont pas si lointains.
Non.
Dans la mesure où, en fait, le bonheur, pour les stoïciens, est juste synonyme de la vertu. Enfin, ce qui n'est pas le cas chez les épicuriens.
Oui, tout à fait. Alors, les deux doctrines se ressemblent. Ça n'est pas ni le moment ni l'heure ici d'entrer dans une comparaison entre stoïcisme et épicurisme. Même si, par exemple, il y a des passages dans le texte qu'on a lu ici, dans le Gai Savoir, de la brièveté de la vie, de Sénèque, qui laissent penser qu'il n'est pas si loin de l'épicurisme. Et qu'au fond, il y a une ambition commune et un désaccord sur les moyens. L'ambition commune, c'est de vivre la vie bonne. C'est d'expérimenter la vie bonne. On dit souvent « la philosophie sert à rien, la philosophie sert à rien, la philosophie sert à rien », mais enfin, il y a une tradition philosophique, il y en a plusieurs même, pour qui la philosophie sert à quelque chose, c'est-à-dire à vivre la vie bonne, à avoir une vie bonne, une existence bonne. L'objet, c'est celui-là. Les moyens d'y parvenir ne sont pas exactement les mêmes. Il y a, chez les stoïciens par exemple, un tropisme normatif bien plus puissant que chez les épicuriens. Épicure développe une hygiène des plaisirs, mais certainement pas une sorte de cadastre des plaisirs avec des choses interdites et des choses licites. Il y a une façon de vivre conformément à la nature qui est brandie par les deux, sauf que c'est pas du tout la même idée qu'ils se font de la nature. La nature est beaucoup plus normative chez les stoïciens que chez les épicuriens. Et au fond, la différence se fait, indépendamment des problématiques de fond, elle se fait sur la forme, c'est-à-dire sur la dose de normativité que contient la nature à laquelle nous faisons référence. Vivre selon la nature. Tiens, vous savez, il y a par exemple comme ça une tradition, qui est aussi une traduction, fautive de Montaigne. Vous trouvez en ligne, j'oublie le nom du traducteur, m'échappe à cet instant, vous trouvez en ligne une édition de Montaigne en français moderne, qui n'est pas celle dont nous avons coutume de parler dans le Gai Savoir, c'est-à-dire ça n'est pas l'édition de André Lanly en quarto Gallimard. C'est une autre édition et le nom du traducteur m'échappe à l'instant. Mais, tant mieux, le traducteur en question a commis une faute, à mon avis, terrible au dernier chapitre des Essais de Montaigne. Dans le dernier chapitre des Essais de Montaigne, Montaigne dit « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, pour le dire à peu de choses près, c'est de vivre à propos. » Voilà, l'expression est « vivre à propos ». Or, dans la traduction de Lanly, on trouve « vivre à propos ». Mais dans la traduction qu'on trouve sur Internet, c'est « vivre comme il faut ». Or, « vivre à propos » est une injonction épicurienne, « vivre comme il faut » est une injonction stoïcienne. Et c'est la réduction de cet « à propos » à ce « comme il faut » qui, à mon avis, tire Montaigne du côté d'un stoïcisme auquel, quand il écrit le dernier chapitre des Essais, le chapitre sur l'expérience, il est devenu étranger. Voilà, c'est un stoïcisme que Montaigne a abjuré. Mais laissons ça, Paola, et revenons à la parole d'Épicure.
Il faut donc consacrer ses soins à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que lorsqu'il est présent, nous avons tout, et que lorsqu'il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. Les recommandations que je t'adresse continuellement, mets-les en pratique et fais-en l'objet de tes soins, reconnaissant en elles distinctement les éléments du bien-vivre. On trouve souvent dans Épicure, dans la lettre à Ménécée, dans ce qu'on a lu, des termes qui ont à voir avec la médecine, la santé de l'âme. Donc on peut dire que pour Épicure, la philosophie est une médecine de l'âme.
Oui, c'est une médecine de l'âme, et du corps aussi d'ailleurs. C'est une médecine de l'âme. Les philosophes sont des médecins. Mais les philosophes sont des médecins qu'ils se donnent ou non pour but de nous soigner. C'est ça qui est merveilleux avec la philosophie. Épicure est un philosophe médecin. Sénèque est un philosophe médecin. Nietzsche est un philosophe médecin. Socrate est un philosophe médecin qui, aux yeux de Nietzsche, pratique une cure qui repose sur la castration. Mais laissons cela. La philosophie est une médecine. Soit elle propose des solutions aux problèmes que nous nous posons, soit elle nous guérit du désir que nous avons de nous poser des problèmes qui n'existent que parce que nous nous les posons. Mais dans tous les cas, c'est une médecine, c'est une thérapie. La philosophie est une médecine. Qu'elle nous guérisse, qu'elle réponde au désir qui est le nôtre, aux attentes qui sont les nôtres, ou qu'elle nous dissuade de pratiquer ces attentes, ou de vivre ses attentes. Dans tous les cas, la philosophie se donne comme une médecine, et c'est vrai que chez Épicure, c'est tout à fait particulier, parce que ça prend la forme chez Épicure d'un tétrapharmacon, c'est-à-dire ce qu'il appelle un tétrapharmacon, un quadruple remède. Ça marche par quatre, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour Épicure, la philosophie a une fonction littéralement, l'expression est de Jean Salem, qui est vraiment un merveilleux connaisseur d'Épicure, de Démocrite, de Leucippe, enfin des atomistes en général. La philosophie a une fonction fébrifuge. Il faut se débarrasser de la fièvre. Voilà. que cette fièvre soit celle des vieillards ou des jeunes gens. Il faut se débarrasser de la fièvre. Alors, on pourrait stigmatiser la juvénilité d'un discours qui, semble-t-il, croit que la connaissance suffit à dissiper la peine. D'un discours qui croit à ce point à la différence entre le corps et l'esprit et à la puissance de l'esprit sur le corps, qu'il considère que la connaissance du bien suffit à nous dissuader de mal agir, au fond, ou que la connaissance de la réalité suffit à dissiper la peine. On peut gloser à l'infini sur le fait que c'est peut-être parce que les hommes savent déjà à quel point la réalité est sinistre, qu'ils sont malheureux et qu'ils ne veulent pas le savoir. On pourrait s'interroger, au fond, sur l'efficacité de cette thérapie. Mais le fait est que la philosophie d'Épicure se donne comme une médecine, c'est une des premières à le faire. Et c'est l'essence même de la pratique de la philosophie ou de la philosophie entendue comme pratique.
Et l'un des premiers remèdes est celui concernant la religion.
Oui, c'est-à-dire que j'ai parlé d'un tétrapharmacon, c'est-à-dire d'un quadruple remède. Hein. Ce quadruple remède repose sur quatre piliers, donc. 1. Il n'y a rien à craindre des dieux, on va le voir. 2. Il n'y a rien à craindre de la mort, on va le voir aussi. 3. On peut supporter la douleur. 4. On peut atteindre le bonheur. Et au fond, ces éléments constituent la racine, la quadruple racine du principe de bonheur, si j'ose dire, la façon dont Épicure prétend nous guérir de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre rapport au monde.
Lieu, considérant que le dieu est un vivant incorruptible et bienheureux, ainsi que la notion commune du dieu en a tracé l'esquisse, ne lui ajoute rien d'étranger à son incorruptibilité, ni rien d'inapproprié à sa béatitude. En revanche, tout ce qui peut préserver en lui la béatitude qui accompagne l'incorruptibilité, juge que cela lui appartient. Car les dieux existent. Évidente est en effet la connaissance que l'on a d'eux. Mais ils ne sont pas tels que la plupart des hommes les conçoivent. Ceux-ci, en effet, ne les préservent pas tels qu'ils les conçoivent. Est impie, d'autre part, non pas celui qui abolit les dieux de la foule, mais celui qui ajoute aux dieux les opinions de la foule. Car les déclarations de la foule à propos des dieux ne sont pas des préconceptions, mais des suppositions fausses. Il en résulte que les dieux sont à l'origine des plus grands malheurs et des plus grands bienfaits. En effet, à donner en toutes circonstances à leurs propres vertus, ils sont favorables à ceux qui leur ressemblent et considèrent comme étranger tout ce qui n'est pas tel. C'est quand même étrange, quand même, parce qu'on sait que Épicure est un atomiste, un matérialiste, et là, il vient de dire que c'est une évidence que les dieux existent.
Ouais. Il y a une théologie épicurienne. C'est quand même fou, hein ?
Et pourtant, ils ne démontrent pas leur existence du tout.
Alors, cela dit, on s'en émerveille. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire droit à cet étonnement. A priori, c'est pas raccord. Ça n'est pas raccord. L'idée d'une théologie épicurienne, c'est presque une contradiction. Tout est matière. Or, dit-il, les dieux eux-mêmes sont composés d'atomes. Ah, bon, donc ils ont un corps humain, ils sont composés d'atomes. Et pourtant, ce sont des dieux, ils sont incorruptibles. Mais pourtant, les atomes sont appelés à disparaître. Oui, mais il y a des tas de contradictions ici. Mais il tient bon sur le fait qu'il faut une théologie, il faille une théologie. Ça, c'est un mystère. L'étonnement philologique d'un étudiant, par exemple, vous, Paola, lisant ce texte, l'étonnement vient du fait que, quand on est matérialiste... D'abord, quand on est matérialiste, il n'y a qu'un seul monde. C'est la raison pour laquelle il est absurde d'être matérialiste et révolutionnaire. On ne peut pas être révolutionnaire quand on est matérialiste. Être matérialiste, c'est considérer que le monde est tout entier tout ce qu'il est. Donc vouloir un autre monde tout en étant matérialiste, c'est être matérialiste tout en ne l'étant pas. Mais on peut retourner l'argument contre Épicure lui-même et considérer qu'être matérialiste, en l'occurrence comme il l'est, ou atomiste, parce que le mot de matérialisme est ici quand même un peu en avance sur son temps. Disons atomiste, être atomiste comme il l'est, et dans le même temps adhérer à l'hypothèse d'une divinité, c'est-à-dire marquer une différence de nature entre les humains et les dieux, penser l'incorruptibilité des atomes divins, ce qui est une contradiction quasi dans les termes, c'est étonnant, c'est bizarre, c'est étrange. Alors, pourquoi fait-il ça? Pourquoi Épicure maintient-il une théologie? Et alors, du coup, on retrouve, vous savez, cette théologie dans la pensée de Lucrèce, dans le poème de Lucrèce. C'est au chant 2. Il dit ceci. « La nature des dieux, en effet, tout entière et par soi, doit jouir de l'immortalité dans une paix suprême, à l'écart et au loin de nos choses à nous. Car elle est dispensée de douleur, de péril, et sa force lui vient de son propre pouvoir, sans nul besoin de nous. Si bien que les bienfaits jamais ne la séduisent, pas plus qu'on ne la voit touchée par la colère. »
C'est une image du bonheur, en fait.
Oui, c'est une image du bonheur. Il y a une exception divine au sein du règne humain. C'est ça, en fait. C'est très bizarre. Ils sont hors du monde et dans le monde. Ils sont hors du monde, mais oui, ils sont dans le monde parce qu'ils sont composés comme le monde. Mais ils sont hors du monde dans la mesure où ils sont immortels, disons incorruptibles et impassibles. Ils s'en foutent à un point résolu, si vous voulez. Et ça, c'est très intéressant. C'est là qu'on s'approche, à mon avis, de la raison d'être de cette théologie.
Mais il commence par les dieux, enfin, dans la lettre à Ménécée, dans les remèdes, il commence par les dieux et il finit avec les dieux, puisqu'il dit qu'être heureux, c'est être divin parmi les hommes. Et donc, c'est comme si c'était un à atteindre, je ne sais pas comment...
Mais ça s'appelle, en termes kantiens, pour parler le Kant, Paola, comment ça s'appelle les à atteindre chez Kant ? Les idéaux régulateurs.
Ah oui,
eh oui, c'est un idéal régulateur. Nos auditeurs doivent entendre cette phrase parce que dans notre vie, nous nous donnons souvent des idéaux régulateurs. Le propre d'un idéal régulateur étant qu'il se donne à nous comme à la fois désirable et hors d'atteinte. Et combien d'idéaux régulateurs ou d'idéaux dont on découvre à la fin de la vie qu'ils n'étaient que des idéaux régulateurs, combien d'étoiles du Nord, au fond, nous donnons-nous dans l'existence? C'est un idéal régulateur. Que figurent les dieux ici? Et c'est intéressant parce que Kant lui-même, qui s'est tellement distingué de l'épicurisme au motif que, pour Kant, le bonheur est au fond l'objet d'un sujet empirique, le désir d'un sujet empirique, donc ça n'a rien du sujet transcendantal, donc ça n'est pas universellement communicable, donc c'est pas très intéressant, et il y a mieux dans la vie qu'à être heureux, puisque nous n'avons pas, vous et moi, comme nous n'avons pas la même existence, nous n'avons pas la même conception du bonheur. Donc pour Kant, ça ne se généralise pas, cette affaire-là, ça ne s'universalise pas. On a mieux à faire qu'à être heureux. L'homme a mieux à faire qu'à être heureux. Il y a le devoir au-delà du bonheur. Donc Kant prend bien soin de s'éloigner, de s'écarter du chemin ici tracé par l'épicurisme. Mais, dans le même temps, que fabrique Épicure avec ces dieux impassibles, composés d'atomes, appartenant au même monde que nous mais hors de notre monde? composés de la même matière que nous, mais affectés d'aucune des passions qui nous pourrissent l'existence. Impassible, en un mot. Existant, mais impassible. Que figure-t-il ?
Mais il empêche qu'on s'en réclame, non ?
Non, oui, certes. Ça, c'est dans un deuxième temps. Mais il figure d'abord l'idéal d'un bonheur véritable. Tout comme chez Kant, Dieu, dont nous ne pouvons pas avoir une connaissance précise, sincère, véritable. Quiconque dit qu'il connaît la nature divine se moque du monde aux yeux de Kant. Quiconque démontre l'existence de Dieu ne voit pas qu'en démontrant l'existence de Dieu, il le fait ainsi tomber du ciel en faisant de Dieu l'objet de la certitude et non plus de la foi. Kant a ceci de commun avec Pascal, qu'on ne démontre pas l'existence de Dieu. Parce que si on la démontre, on ne peut plus y croire. On n'a plus la liberté d'y croire. En cela, Kant et Pascal sont les fondateurs d'une véritable laïcité, c'est-à-dire d'une liberté de croire. Kant s'indigne qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu, mais en revanche, l'idée de Dieu, l'idéal régulateur divin, figure à ses yeux l'idéal d'une connaissance achevée, d'une connaissance telle que nous ne pouvons pas, nous, simples mortels, en avoir des choses. L'idéal d'une connaissance que nous ne pouvons pas, nous, simples mortels, avoir des choses. Et chez Épicure, les dieux figurent, me semble-t-il, ici, l'idéal d'un bonheur achevé. D'ailleurs, il y a des tas de paradoxes sur cette théologie épicurienne. Il en affirme l'existence. Mais dans le même temps, il n'arrête pas de dire que ces dieux ne ressemblent en rien à l'idée que la multitude s'en fait. On pourrait se servir d'Épicure, comme on se sert de Spinoza, pour montrer, non pas que les dieux existent ou n'existent pas, mais à quel genre de névrose, de folie, de pathologie, de désarroi imaginatif correspond le désir de croire en Dieu. Bon. On pourrait se servir d'Épicure pour le faire, comme on peut se servir de l'appendice du livre 1 de l'éthique de Spinoza pour questionner non pas encore une fois l'existence ou l'inexistence de Dieu, mais la pathologie dont le désir d'y croire est le symptôme. On pourrait s'en servir. Or, Épicure ne nous laisse pas cette liberté puisqu'il affirme l'existence des dieux. Donc il semble lui-même tomber sous le coup des généalogies que sa propre philosophie permettrait de faire. Mais dans le même temps, il dit que ce sont des dieux qui n'ont rien à voir avec ce que croit la multitude. Il maintient que les dieux existent sans tirer la moindre conséquence d'un tel constat. Et on en vient au deuxième point. Alors, certains pourraient critiquer l'archaïsme d'une pensée qui n'assume pas toutes ses conséquences. Ou la persistance d'un mythe, la contradiction entre des dieux qui ont un corps humain composé d'atomes et qui n'en sont pas moins des dieux. Mais chez Épicure, l'idée d'une divinité indifférente est extrêmement intéressante parce que ça lui permet de battre en brèche le principe de récompense qui est à l'origine de toutes les folies humaines, c'est-à-dire le sentiment que les dieux sont sensibles aux offrandes qu'on leur fait. Qui aime Dieu, dit Spinoza, d'un amour véritable ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Donc, aimer Dieu d'un amour véritable, c'est-à-dire aimer la nature d'un amour véritable, ça n'est pas dire à la nature « s'il te plaît, nature, sois sympa pour moi. Fais-moi plaisir, fais-moi risette. » Donc ça ne marche pas comme ça. Donc, il se sert des dieux pour critiquer le principe de récompense. En latin, ça se dit « do ut des »,« je te donne pour que tu me donnes ». Eh bien, Épicure critique cela. L'indifférence des dieux lui permet de battre en brèche l'idée d'un principe de récompense, c'est-à-dire d'un dieu qui serait perméable aux offrandes. Au fond, le dieu que ne connaissent pas les imbéciles qui défilent et qui manifestent contre les caricatures du prophète. Parce que défiler contre les caricatures du prophète, c'est se faire de Dieu une idée très pauvre. C'est considérer que Dieu est susceptible d'être vexé par des caricatures de lui-même. C'est réduire Dieu à l'humanité. Raison pour laquelle il est essentiel de ne pas considérer que l'indignation suscitée par les caricatures du prophète est le propre des musulmans. Ce n'est pas le propre des musulmans, c'est le propre des imbéciles, quels qu'ils soient, de toute religion, de toute confession en l'occurrence. C'est-à-dire c'est le propre de tous ceux qui considèrent qu'ils sont à ce point les porte-paroles de la divinité qu'ils sont en droit de considérer qu'elle est offensée par des desseins d'elle-même, à la façon dont les hommes peuvent être offensés par des desseins qui les tourneraient en ridicule. Quelle pauvre idée de Dieu que de le tenir pour affectable par des choses comme celle-là, comme pour susceptible d'être affecté par des caricatures de lui-même. Alors, quand on est ici chez Épicure, l'indifférence des dieux nous permet de dire, voilà, ce sont des dieux qui se fichent des offrandes ou des critiques qu'on leur fait. Ce n'est pas leur problème. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est politique, Paola. Vous avez raison tout à l'heure, vous le laissiez entendre. C'est qu'au fond, une divinité ainsi conçue, ainsi reconnue dans son indifférence, cette divinité est une divinité dont aucun tyran, aucun monarque, aucun picrocole ne pourra jamais faire son alibi. C'est une divinité dont aucun monarque ne pourra jamais se réclamer. Donc, c'est une divinité qui n'a pas d'incidence politique. Donc, si vous voulez, il y a des dieux, ils sont composés d'atomes, bon, c'est bizarre, ils sont indifférents et ils ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération politique. Donc, cette théologie épicurienne est très étrange, elle préserve le caractère de divinité tout en la dépouillant de tout ce dont elle est ordinairement le symptôme dans ceux qui construisent ou élaborent la chimère d'un dieu personnel, par exemple.
Esquisse la touche, ne esquisse la touchera. Tu n'as pas voir revenir ce cagole?
Qu'est-ce qu'il a dit, là?
Il demande si vous n'avez pas froid.
Froid, moi? Jamais!
Maintenant, il faut parvenir à penser que parmi les désirs, certains sont fondés en nature, d'autres sont vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d'autres ne sont que naturels. Parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour le calme du corps. D'autres, enfin, simplement pour le fait de vivre. En effet, une juste vision de ces catégories permettra chaque fois de choisir et de refuser relativement à la santé du corps et à la sérénité, puisque telle est la perfection même de la vie bienheureuse.
Tu avais tort, divinatrice. Ce soir, nous voguons vers la victoire. Ton panda magique a tout d'un idiot.
Êtes-vous certain que ce soit le panda le plus idiot des deux? Vous avez détruit votre demeure ancestrale, Shen.
Qu'importe un maigre sacrifice, quand toute la Chine sera ma récompense.
Serez-vous enfin pleinement satisfait? Est-ce que la subordination du monde entier suffira seulement à vous combler?
Ce sera un début, je pense aussi.
Quel enchaînement, Raphaël, alors, Damar, une lecture d'Épicure et puis Kung Fu Panda.
Mais vous êtes co-responsable de ce choix, Paola.
J'ai pas choisi Damar, en tout cas.
Vous n'avez pas choisi Damar, non, c'est vrai. Mais alors pourquoi Damar? Eh bien, tout simplement parce que dans la grande répartition épicurienne des désirs, il faut bien comprendre un truc, c'est que Épicure, c'est une économie des désirs, pas des plaisirs. C'est très important de faire cette distinction.
Une éducation même, vous avez dit.
Oui, une éducation des désirs. C'est très important, ça. Il n'y a pas de philosophie du désir sans éducation du désir, au fond, parce qu'une philosophie du désir est une philosophie qui magnifie ce que nous désirons. Mais pour magnifier ce que nous désirons, il faut que nous désirions vraiment ce que nous désirons. C'est-à-dire que les philosophes, c'est le cas de Spinoza par exemple, ont besoin de démontrer qu'on ne désire pas vraiment l'héroïne quand on la désire. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe des désirs qui supposeraient eux-mêmes d'être réformés, c'est-à-dire mieux compris. Alors, chez Épicure, comment ça marche? C'est la maxime fondamentale 29 qu'on retrouve dans la lettre à Ménécée. Des désirs, les uns sont naturels et nécessaires, d'autres naturels et non nécessaires, d'autres ne sont ni naturels ni nécessaires, mais naissent de l'opinion vide.
C'est intéressant parce que vous avez utilisé le mot maxime, donc vous rapprochez Épicure un peu d'un moraliste.
C'est parce qu'on les présente comme ça, hein. C'est parce que le corpus épicurien présente comme ça, parle de maxime, mais pourquoi
dommage,
pas? Alors, désir naturel et nécessaire, c'est Damar. Le désir de protection thermique. C'est un désir d'absence de souffrance et de corps. C'est un vêtement épicurien, le t-shirt d'Amar thermolactyle. Mais il n'y a pas que ça. La philosophie et l'amitié sont au même titre que le fait que le corps soit tenu au chaud, un désir naturel et nécessaire. Par opposition à cela, il y a des désirs illimités. Des désirs illimités, c'est-à-dire des désirs déréglés, non soumis à la norme naturelle. Des désirs qui déplacent le besoin mais qui ne l'apaisent pas. Et cette illimitation du désir, pour le coup, c'est Kung Fu Panda. C'est le Chen, c'est le Pan, bien vu d'ailleurs que ce soit l'animal choisi pour désigner un désir qui ne se limite pas. L'illimitation des désirs, c'est le Pan qui veut conquérir la Chine entière. Et lui dit la brebis divinatrice, lui dit, mais et après, qu'est-ce que t'auras fait quand t'auras la Chine? T'as la Chine et après? Qu'est-ce que c'est ça? Et il y a plusieurs motifs dans l'illimitation des désirs. Et puis on parlera de la mort pour finir, Paola, parce que je sens que vous avez envie de parler de la mort. L'illimitation des désirs chez Épicure tient à plusieurs choses. La première, c'est qu'elle tient à une volonté, une propension à développer indéfiniment des désirs naturels et nécessaires. Par exemple, au lieu de manger un steak frites, on se complique la vie, on fait un bœuf en daube avec une entrée, avec de la burrata à la truffe, si vous voulez. On se complique la tâche, on se complique la vie. Ces raffinements dans la cuisine ont le tort, hein, aux yeux d'un épicurien de stricte obédience, hein, d'outrepasser ce que réclame le désir naturel et nécessaire de la faim. Bah, on n'a pas besoin de la burrata à la truffe, si vous voulez, même si c'est certainement délicieux, pour apaiser la faim. Un Big Mac, il suffit. Le second facteur d'illimitation du désir, c'est l'accroissement indéfini. Disons, c'est la tentative de satisfaire à l'infini un désir certes naturel, mais non nécessaire. Par exemple, la sexualité.
Ah oui.
La sexualité, c'est-à-dire, par exemple, c'est le recouvrement du désir naturel sexuel par la douleur d'imaginer que l'autre puisse faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est le livre 3 de l'éthique, par exemple. C'est le traité des passions de Spinoza, si vous voulez. Et puis, la troisième forme, et c'est pour ça Kung Fu Panda, c'est un désir, dit Épicure, fondé sur l'opinion vide, c'est-à-dire l'ambition, la volonté de domination, le désir des honneurs, le désir des richesses, l'appétit de gloire, le désir d'immortalité. Ici, ce ne sont pas les yeux qui sont plus gros que le ventre, c'est l'esprit qui est plus gros que la chair. C'est ce que l'opinion ajoute à la pure affection de plaisir. Et là, Épicure est très fort. Parce que c'est là qu'Épicure montre à quel point le corps n'est pas la source de notre misère, mais la source de notre misère, ce sont les opinions qui se surajoutent aux besoins du corps. Que le corps, en somme, ne s'égare jamais. Montaigne est épicurien quand il laisse entendre et quand il dit même que le corps ne s'égare pas. Et voyez comment Épicure propose une hygiène et pas une police des mœurs. Il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il s'agit tout simplement de repérer ce qui, dans la nature même de mon désir, relève d'une chimère. Du dépôt d'une opinion sur les besoins de mon corps, de la multiplication des besoins de mon corps par cette espèce d'exhausteur de désir, d'exhausteur illimité de désir, en quoi consiste l'opinion vide qu'on peut se faire de la gloire, par exemple, ou de la postérité. Et c'est cette troisième dimension du désir qui est parfaitement illustrée par cet homme qui veut conquérir la Chine entière et qui, en voulant la conquérir, alors le dessin est très beau, hein, le dessin animé est magnifique, la carte de la Chine brûle au moment où il dit qu'il veut la conquérir. Il ne reste plus rien. C'est le même désir qui fait se disputer deux enfants dans un poème en prose de Baudelaire. Ils se disputent un morceau de pain jusqu'au moment où il ne reste que des miettes du morceau de pain. C'est-à-dire qu'il montre que l'objet lui-même disparaît derrière le désir qui le détruit à force de vouloir le posséder. C'est cette troisième modalité de l'illimitation qu'Épicure permet de penser.
Alors, il nous reste quelques mots à dire sur la mort, mais après tout, que dire sur la mort, hein, donc,
lire déjà sur
voilà,
la mort.
Voilà, on va lire le texte.
À vous, Paola, on finira là-dessus.
Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance. Non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire, en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre, pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il pour ne rien dire celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve, parce qu'elle doit arriver un jour. Car ce dont la présence ne nous gêne pas, ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. Alors, Raphaël, est-ce qu'on peut dire que Épicure n'est pas aussi fort sur ce qu'il dit de la mort que sur ce qu'il dit des désirs.
Sur le papier, c'est imparable. Vous êtes vivant, vous êtes vivant, vous êtes mort, vous êtes mort.
Syllogisme.
Ah ben, c'est impeccable. Vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort, vous êtes mort, vous n'êtes pas vivant. C'est Anatole France qui avait résumé le syllogisme épicurien. Je suis, elle n'est pas, elle est, je ne suis plus. Donc, par conséquent, si vous voulez, il n'y a pas de problème. La mort n'est rien pour nous, dans la mesure où on est vivant. Bon, il y a toute une série d'objections à ça, qui sont des objections en général littéraires. Vous avez l'agonie de Madame Bovary, par exemple. Au moment où elle avale de l'arsenic, elle dit, sa première pensée, c'est « Ah, c'est bien peu de choses, la mort. Je vais m'endormir et tout sera fini. » Et puis juste après, elle commence à vomir, à agoniser, c'est épouvantable. Bon, vous avez, par exemple, dans la littérature du 19e, la figure de Norbert de Varenne, bel ami de Maupassant. Norbert de Varenne est un personnage qui est tout entier tiré d'ailleurs des réflexions de Madame Bovary. Norbert de Varenne est un personnage qui explique à Georges Duroy que, à tout endroit, à tout instant, la mort est là. Elle est là, elle est là. Duroy, il est là, il est tout content, il jouit, il est heureux, il a du succès, etc. Et Varenne lui dit, mais vas-y, fais-toi plaisir, mais elle est là. Elle est là, elle est là tout le temps, elle est là tout le temps. Donc, c'est pas parce que t'es bien vivant que tu vas pas mourir. Et le fait de mourir bientôt fait de toi un mort en sursis. Je veux dire, il y a des tas d'objections possibles et la littérature prend en charge toutes les objections qu'on peut faire au fameux syllogisme épicurien. Alors, comme le temps nous presse, qu'on a peu de temps, qu'il faut finir ça, je voudrais, moi, terminer cette émission sur une légère distinction, une petite nuance que je dois, là encore, à Jean Salem, à l'excellent Jean Salem. Il reprend la phrase d'Épicure, « La mort n'est rien pour nous ». Alors, il y a, et Salem explique qu'on peut comprendre de trois manières ce « pour nous », pros et mas, en grec. Il y a trois façons de le comprendre. Et c'est ça que je trouve formidable. Et je voudrais finir là-dessus en rendant hommage à ce maître des atomistes qui est Jean Salem et aux ouvrages de Jean Salem sur l'atomisme antique qui sont vraiment, à mon avis, pour autant que je puisse en juger, de formidables références. Comment comprendre ça? Pros et mas, en grec. Un, on peut le traduire par « pour nous ». La mort n'est rien pour nous. Et on retombe dans ce qu'on disait au début de l'émission sur l'utilitarisme d'Épicure, au fond.
La mort, c'est pas bon pour nous, quoi. C'est pas bon pour nous, c'est rien pour nous. C'est rien pour nous, c'est-à-dire... C'est... Du point de vue de mon utilité ou de mon inutilité, la question même de la mort se pose pas. La mort, c'est autre chose.
Le deuxième sens qu'on peut donner à ça, c'est, et précise Salem, la mort n'est rien par rapport à nous. En d'autres termes, craindre la mort, ça n'est que craindre un mot. Et le troisième terme est très riche, très intéressant, et je finirai là-dessus. C'est, en fait, il y a une traduction possible de cette expression, c'est de dire « la mort ne nous touche en rien ». Et cette expression est peut-être la plus riche, la plus intéressante, parce qu'elle fait droit, et en fait, c'est de cette façon que Lucrèce lui-même traduit l'expression « la mort ne nous touche en rien ». Il dit exactement ceci, dans la traduction Potra, « la mort n'est rien pour ce qui nous concerne », mais on peut la trouver également sous la forme de « la mort ne nous touche en rien ». Et cette idée-là fait droit au sensualisme de Lucrèce et d'Épicure, au sensualisme d'Épicure, c'est-à-dire au fond à l'idée, et l'expression est de Jean Salem, et je voudrais la garder ici, que ce soit le mot de la fin au fond, que quoi qu'on fasse, quand bien même on aurait une vie pourrie, quand bien même on se gâcherait la vie à vouloir oublier qu'on va mourir, quand bien même on essaierait de se divertir tout le temps, c'est-à-dire on vivrait notre vie dans la détresse de celui qui veut à tout prix oublier qu'elle s'achève, quand bien même on se donnerait l'apparence d'un sage et en réalité les tourments d'un mortel, quand bien même on serait Norbert de Varenne, quand bien même on se compliquerait l'existence, il est en toute rigueur et pour une pensée rigoureuse impossible, dit Jean Salem, de tâter du néant. Et Paola, là, pourquoi Rammstein ?
Vous avez reconnu déjà Raphaël, c'est bien.
Oui.
C'est parce qu'en fait, c'est la musique utilisée
dans... Je précise qu'en général, la musique de fin, c'est l'œuvre de Luc-Jean Reynaud, de François Connac ou de Paola Reymann. Alors pourquoi Rammstein sur ce
parce
coup-là ?
Parce que c'est utilisé par Lars von Trier dans Nymphomaniac. Et dans Nymphomaniac, il y a une scène, c'est pas la meilleure cinématographiquement, mais bref, où le père de l'héroïne va mourir. Il est médecin et puis il lui dit, tu sais, moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai lu Épicure. Il lui cite Épicure. 2 heures plus tard, au milieu de la nuit, il se réveille et il crie, I don't wanna die, il veut pas mourir, il veut que sa femme revienne, etc. Donc voilà.
Vous êtes une intello, Paola. Et regardez Kung Fu Panda, notamment. Et merci pour cette référence. Merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet à la page du Gai Savoir ou sur Facebook, pourquoi pas. Intello dans mon esprit, c'était un compliment. Hein. On est bien d'accord. Merci à Luc-Jean Reynaud, évidemment notre réalisateur, à Éric Boisset à la technique et à Alice Ramon, notre attachée de production. D'Épicure, camarades, lisez la lettre à Ménécée en utilisant comme viatique le décryptage qu'en propose Jean Salem dans son excellent petit livre sur l'atomisme antique, un livre disponible en livre de poche. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Gai Savoir. Dans l'intervalle, retrouvez tous les jours, tous les matins, de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bientôt 17h sur France Culture, dans quelques instants, à l'IREBI. Bilder